Journal d'un écrivain, 1876, juillet-août. Chapitre 1, le départ à l'étranger, les Russes en wagon. Depuis 2 mois, je ne me suis pas entretenue avec mes lecteurs. Après la publication du numéro de juin, j'ai pris le chemin de fer pour me rendre à Ems. Je n'y ai pas été pour me reposer, mais bien pour faire ce que l'on fait à Ems. Décidément, tout ceci est trop personnel, mais il m'arrive d'écrire mon carnet non seulement pour mes lecteurs, mais aussi pour moi-même. C'est pourquoi, sans doute, on y peut trouver tant de choses qui peuvent paraître incohérentes, tant de pensées à moi familières, qui, conçues après de longues réflexions, me paraissent naturelles et logiques, mais surprennent le lecteur, qui ne leur voit de liaison ni avec ce qui précède, ni avec ce qui suit. Mais comment ne parlerais-je pas de mon départ pour l'étranger? Certes, si cela ne dépendait que de moi, je préférerais me rendre dans le sud de la Russie où, avec sa largesse coutumière, le sol, pour un travail facile, rend au centuple, au laboureur, ce qu'il a semé dans les champs féconds. Mais il paraît que les choses ne se passent plus là comme au temps où le poète rêvait du pays. Ce n'est qu'après un travail très pénible que le laboureur récolte ce qu'il a semé, et la moisson ne donne plus 100 pour 1. À ce propos, je viens de lire un article dans la Moskovskaya Fiedomosti. Il s'agissait de la Crimée et du dépeuplement de ce pays. La Moskovskaya Fiedomosti exprime cette pensée que je trouve insolente. Il n'y a pas lieu de plaindre les Tartares qui s'expatrient. Qu'ils s'en aillent, et il sera bien mieux de coloniser la Crimée à l'aide de colons russes. Je suis choquée de l'insolence de cette pensée. La Moskovskaya Fiedomosti avance comme un fait avéré que les Tartares criméens ont démontré leur incapacité comme cultivateurs et que les Russes du Sud, s'il vous plaît, montreront une science agronomique bien supérieure. Ils en donnent comme preuve l'état actuel des terres du Caucase. En tout cas, si les Russes ne viennent pas occuper les terrains vacants, les Juifs se jetteront sur la Crimée et la ruineront en un rien de temps. Le trajet de Pétersbourg à Berlin est long. Il dure près de 48 heures. Aussi ai-je pris avec moi quelques brochures et journaux. Je n'aime pas causer en wagon. En Russie, c'est une faiblesse que j'avoue. À l'étranger, il en va tout autrement. Si un Russe entame avec vous une conversation en wagon, il débutera toujours sur un ton confidentiel, amical. Mais bientôt vous verrez naître en lui une méfiance qui ne tardera pas à se manifester ouvertement par quelque raillerie caustique ou même une grossièreté, quelle que soit l'éducation de votre interlocuteur. Il n'existe pas d'homme plus près que le Russe à répéter « Je me moque de ce que l'on pensera de moi ». Et il n'y a pas d'être au monde qui tremble à ce point devant l'opinion générale. Cela provient d'un manque de respect envers soi-même, que l'on retrouve chez presque tous les Russes, même s'ils sont d'une présomption et d'une vanité sans bornes. Il est pénible de rencontrer un Russe en wagon ou à l'étranger. Et pourtant, la conversation commencera presque toujours ainsi. « Vous êtes russe ? Quel plaisir de rencontrer un compatriote loin de chez soi !» Mais n'ajoutez pas foi à ce ton aimable. Au bout d'un instant, le compatriote sourit encore, mais vous soupçonne déjà d'on ne sait quelles intentions de raillerie peut-être méritées. Il aura tout de suite besoin de mentir pour se relever dans votre opinion. Dès ses premières phrases, il laissera négligemment tomber qu'il a récemment rencontré un tel ou un tel. Il s'agira toujours de quelques personnages aux côtés de la société russe. Il parlera de cette illustration non seulement comme d'un ami à lui, mais aussi comme d'un homme avec lequel vous ne pouvez manquer d'être en relation. Et si vous déclarez ne pas connaître le phénix en question, votre interlocuteur s'en offensera. Il vous accusera en lui-même d'avoir pensé qu'il se vantait en prétendant connaître le personnage mentionné. La conversation s'arrêtera court et le compatriote se détournera brusquement de vous. Au besoin, il se mettra à causer, non sans affectation, avec le boulanger allemand placé vis-à-vis de lui. La nuit, il s'étendra sur les coussins, ses pieds vous touchant presque, et au bout du trajet, il descendra de wagon sans vous avoir même adressé un signe de tête. Les plus ombrageux de tous sont les généraux russes. Ils ont peur, dès l'abord, que, vous croyant avec eux sur un pied d'égalité parce que vous êtes à l'étranger, vous ne vous avisiez de leur parler autrement qu'il ne convient avec des hauts gradés de leur importance. Aussi, dès leur entrée dans le wagon, se réfugient-ils dans une dignité sévère, marmoréenne et glaciale. Tant mieux d'ailleurs, ils ne dérangeront ainsi personne. En tout cas, le mieux est d'être armé d'un livre ou d'une brochure contre la loquacité de la plupart des Russes. Vous avez l'air de dire « Je lis, laissez-moi en paix ». Chapitre 2 Du caractère guerrier des Allemands. Dès que nous fûmes entrés en Allemagne, les 6 Allemands de notre compartiment se mirent à parler de la guerre et de la Russie. Je fus intéressé par leur conversation. Ce n'étaient pas des Allemands des hautes classes. Il n'y avait là, certes, ni un baron, ni même un officier. Ils parlaient des forces militaires de la Russie. Avec une hautaine tranquillité, ils décrétaient que jamais notre pays n'avait été plus faible au point de vue des armements. Un solide Germain qui arrivait de Pétersbourg déclara du ton le plus capable que nous n'avions guère plus de 270 000 fusils à tir rapide, que le reste du matériel consistait en vieux flingots retapés. Il n'y avait de préparé, selon lui, que 60 millions de cartouches, c'est-à-dire que chaque soldat ne pourrait tirer plus de 60 coups de feu, l'effectif étant d'un million d'hommes. De plus, les cartouches étaient mal faites. Quelques mots que j'avais échangés avec le conducteur du train leur avaient fait supposer que j'étais incapable de comprendre l'allemand. Mais si je parle très mal cette langue, je l'entends assez bien. Au bout d'un certain temps, je crus de mon devoir patriotique de riposter que tous leurs renseignements étaient inexacts. Ils m'écoutèrent poliment et m'aidèrent même à m'exprimer quand je ne trouvais pas un mot. Ils ne me firent aucune objection, sourirent même avec indulgence, convaincus qu'un Russe devait toujours se faire quelques illusions, et je suis sûr qu'ils ne changèrent pas d'avis. En 1871, ils n'étaient pas aussi courtois. Je vis le retour de l'armée saxonne à Dresde. On avait organisé une entrée triomphale et des ovations. Il fallait voir le défilé. Toute la vanité allemande, cette vanité qui rend si désagréable une race, d'ailleurs de premier ordre, se donna alors carrière. Et depuis cette entrée trop triomphale, la population de la ville ne perdit aucune occasion de blesser, par des propos, les nombreux Russes qui se trouvaient alors à Dresde. Même dans les boutiques où ils venaient faire leurs emplettes, on ne leur ménageait pas les prédictions désagréables. « Voilà que nous en avons fini avec les Français !» leur disait-on. « À votre tour, maintenant !» Nous fûmes victimes d'une inconcevable animosité, subite et imprévue. Cela me parut étonnant, bien que je fusse habitué à entendre, à Moscou même, les Allemands répétaient à tout bout de champ qu'ils détestaient les Russes. Une dame russe, la comtesse K, qui vivait alors à Dresde, s'était assise dans l'un des endroits assignés au public pour assister à la rentrée des troupes. Derrière elle, quelques Allemands enthousiastes se mirent à injurier furieusement la Russie. « Je me retournai, » me dit-elle. Et leur rendit la monnaie de leurs pièces en employant des mots violents, des mots « peuple ». Les insulteurs se turent. Les Allemands sont extrêmement polis avec les dames, mais avec un homme, les choses ne se fussent pas passées de la même manière. À la même époque, des bandes d'Allemands ivres parcoururent les rues de Pétersbourg et cherchèrent querelle à nos soldats. tout cela par patriotisme. Les journaux allemands mènent actuellement une campagne féroce contre la Russie qui veut, affirme-t-il, s'emparer de l'Orient et, forte de son alliance avec tous les Slaves, se jeter sur la civilisation européenne pour la détruire. Le Golos, dans l'un de ses articles, a fait remarquer que ces provocations furibondes se produisent justement au lendemain des entrevues amicales des trois empereurs, et que c'est au moins bizarre. Chapitre 3. Le dernier mot de la civilisation. Oui, l'Europe va assister à de graves événements. La question d'Orient croît, grossit, déborde, envahit tout. Aucune volonté de sagesse, de prudence ne pourra tenir bon contre le courant. Mais ce qui est très grave encore, c'est l'état d'esprit de l'Europe, ou pour mieux dire, de ses principaux représentants. Toutes ces nations qui ont détruit l'esclavage, aboli la traite des Noirs, abattu le despotisme chez elles, proclament les droits de l'humanité, activent le progrès de la science, élargit et embellit nos âmes par l'art, promis dans un avenir prochain le règne de la justice et de la vérité, toutes ces nations refusent de s'intéresser au sort de malheureux chrétiens que l'on massacre comme des bêtes nuisibles. Les gémissements des infortunés qu'on égorge ennuient l'Europe. Quel spectacle pourtant, voyons-nous aujourd'hui en Orient. On viole les sœurs sous les yeux de leurs frères mourants. Devant les mères, on lance en l'air des enfants qui retombent sur des pointes de baïonnettes. On ruine des villages, on saccage des églises. Les hordes sauvages des musulmans, ennemis de notre civilisation, opèrent une destruction systématique. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés. Nous sommes en présence de la méthode guerrière d'un grand empire. Les troupes de brigands en uniforme agissent d'après les ordres des ministres, de l'État, du sultan lui-même. L'Europe chrétienne et civilisée regarde massacrer les chrétiens et semble dire avec impatience « Aura-t-on bientôt fini d'écraser tous ces insectes ?» Parfois elle se détourne, ne veut plus voir, et crie alors à l'exagération et au mensonge. Ne comprenez-vous pas que ces 60 000 burgares se sont tués eux-mêmes pour créer des embarras aux Turcs ? Dirait-elle presque. Et elle affirme, tout cela, c'est la faute de la Russie. Cette Russie, à leurs yeux, deviendra trop forte. Elle va s'emparer de l'Orient, de Constantinople, de la Méditerranée, des ports, du commerce. Après cela, elle tombera sur l'Europe comme une horde barbare et détruira la civilisation, cette même civilisation qui permet tant d'atrocités. C'est le refrain de l'Angleterre et de l'Allemagne qui, du reste, ne croient pas à un seul mot de leur chanson. Car enfin, y a-t-il un seul homme instruit et sensé en Europe qui se figure que la Russie va détruire la civilisation ? Qu'il ne croit pas à notre désintéressement et nous prête 1000 mauvaises intentions, c'est compréhensible. Mais je n'admets pas qu'il nous croit plus fort que toute l'Europe coalisée. La Russie n'est immensément forte que chez elle, quand elle défend son territoire. Mais si elle attaquait, elle serait 4 fois plus faible que les assaillis. On le sait très bien, mais on continue à égarer l'opinion à cause de la méfiance de quelques cupides marchands anglais. Mais ceux-là même n'ignorent pas que la Russie est incapable de démolir leur industrie, de ruiner leur commerce, ou qu'il faudra des siècles pour cela. Mais la moindre augmentation dans le commerce d'un autre pays, le moindre développement que prend une marine, causent en Angleterre des paniques sans nom. Quant aux Allemands, pourquoi leur presse pousse-t-elle des cris de terreur ? Ah, parce qu'ils ont justement derrière eux la Russie, qui les a empêchés de profiter de circonstances favorables pour achever la France, pour faire disparaître une bonne fois ce nom qui les empêche encore de dormir tranquille. « La Russie nous gêne, pense-t-il. Il faut l'enfermer dans ses vraies limites. Mais comment y arriver si la France est toujours vivante ? La Russie est coupable d'être la Russie, les Russes d'être Russes, d'être Slaves. Elle a la haine de l'Europe, cette race de Slaves, d'esclaves. Il y en a pas mal chez nous de ces esclaves. Ils pourraient se révolter. 18 siècles de civilisation deviennent une niaiserie quand on inquiète ces grandes puissances. L'horrible, c'est que c'est là le dernier mot de la civilisation. Ne venez pas nous dire qu'en Europe, même en Angleterre, on s'est ému, çà et là, du sort des chrétiens d'Orient, qu'il y a même eu des souscriptions. Ce sont des cas isolés qui démontrent combien les rares gens bien intentionnés sont en Europe impuissants contre les États. Un homme de bonne foi qui voudrait comprendre serait bien perplexe. Où donc est la vérité ? Se dirait-il. Est-il possible que le monde soit encore si loin d'elle ? Quand donc finira la haine ? Quand donc tous les hommes n'auront-ils qu'une seule volonté ? La vérité sera-t-elle jamais assez forte pour vaincre ? Où est la fraternité humaine ? Ne sont-ce là que de vains mots d'idéalistes, de poètes ? Est-il vrai que le juif règne de nouveau, ou, pour mieux dire, qu'il n'ait jamais cessé de régner ? Chapitre 4. Les Allemands et le travail. L'esprit allemand. Ems est une station brillante et à la mode. On y vient du monde entier. Ses sources attirent surtout les malades atteints d'affections des voies respiratoires. Et beaucoup de gens y font des cures avec un résultat satisfaisant. L'été, on y peut rencontrer jusqu'à 15 000 visiteurs, presque tous évidemment gens riches ou ayant largement les moyens de se soigner. Toutefois, il y a aussi des pauvres qui viennent ici chercher la guérison, quelquefois à pied. On en compte environ une centaine. Tous n'arrivent pas à pied, bien entendu. Il y en a qui prennent le chemin de fer. J'ai été très intéressée par les wagons de 4e classe, construits pour les lignes allemandes. Pendant un arrêt du train, j'ai prié le conducteur, presque tous les conducteurs allemands sont très aimables pour les voyageurs, de me faire voir un wagon de 4e classe. Il m'a montré une voiture sans la moindre banquette, rien que les parois et le plancher. Où s'assoient-ils, vos voyageurs de 4e classe ? Sur le plancher ? Naturellement, si ça leur fait plaisir. Combien de places contiennent vos wagons ?
25.
En calculant l'espace dont pouvait disposer chacun des 25 voyageurs, j'ai conclu que tous devaient rester debout, et encore, les épaules se touchant. S'ils sont au complet, il est évident qu'ils sont forcés de conserver leurs bagages à la main. Maintenant, sans doute, n'ont-ils que de petits paquets. J'ai fait part de mes réflexions au conducteur, qui m'a répondu « Oui, mais le prix n'est que la moitié de celui de la 3e classe. C'est déjà un grand bienfait pour les pauvres. » On me dit que ces pauvres peuvent non seulement faire gratuitement leur cure, mais qu'ils sont encore nourris et logés, je ne me rappelle plus par qui. Dès que vous êtes installé à Ems, dans une chambre d'hôtel, depuis 2 ou 3 jours, deux messieurs, d'aspect doux et modeste, vous rendent visite, porteurs de petits livres de souscription. L'un d'eux reçoit des offrandes pour les malades indigents. Sur son livre figure un avis imprimé des docteurs d'Eps, vous exhortant à vous souvenir des pauvres. Vous donnez votre obol, suivant vos moyens, et inscrivez votre nom sur le carnet. J'ai parcouru la liste de souscripteurs, et j'ai été frappé de leur manque de prodigalité. 1 demi-marque, 1 marque, pas souvent 3 marques, très rarement 5 marques. « Combien pouvez-vous rassembler d'argent dans la saison ? » demandai-je. « Jusqu'à 1000 thalers, mein Herr, mais c'est encore bien peu en comparaison de ce dont nous aurions besoin pour 100 personnes environ que nous entretenons complètement. » « En effet, c'est peu, 1000 thalers, c'est 3000 marques. s'il vient 15 000 visiteurs au zoo, il est évident qu'il y en a qui ne donnent rien et mettent le colporteur à la porte, comme je l'ai vu par la suite. Cependant, le public est brillant, très brillant. Entrez dans le pavillon où l'on boit les eaux à l'heure de la cure et regardez cette foule qui écoute l'orchestre. À ce propos, j'ai lu ces temps-ci, dans les journaux, que les Russes avaient souscrit très peu d'argent pour les Slaves révoltés, en comparaison de ce que l'Europe avait offert. On parlait surtout de l'Autriche, qui à elle seule avait versé plusieurs millions de gulden pour l'entretien des familles des insurgés. Des milliers de ces familles se sont réfugiées sur le territoire autrichien. L'Angleterre, et même la France et l'Italie, se seraient montrées beaucoup plus généreuses que nous. Franchement, je ne crois pas à tant d'empressement de la part des nations européennes. Pour ce qui est de l'Angleterre, surtout, je serais curieux de connaître le chiffre véritable de ces souscriptions. Il paraît que personne n'en sait rien. Quant à l'Autriche, qui, dès le commencement des hostilités, a conçu le dessein de s'emparer de la Bosnie, ce dont on commence à parler dans le monde diplomatique, elle a souscrit avec des intéressements en vue de son intérêt futur, et son offrande n'a été nullement nationale, mais bien officielle. Du reste, elle a souscrit, mais sur le papier. J'aimerais savoir que l'on recueillera de ce côté. On quête aussi à Ems pour les « Bloodige Kinder », c'est-à-dire des enfants idiots. Il y a ici un hôpital pour eux. Naturellement, ce n'est pas Ems qui fournit tous ces petits malheureux. Il serait honteux pour une si petite ville de produire tant d'idiots. On dit que l'établissement est subventionné, mais de façon insuffisante, si bien qu'il faut recourir aux dons particuliers. Un monsieur, splendidement décoratif, ou une dame opulente, recouvre ici la santé et laisse, est-ce bien par reconnaissance, 2 ou 3 marques pour de pauvres enfants privés d'intelligence. De temps à autre, très rarement, étincelle sur le livre de souscription la somme de 10 marques. Le quêteur me dit pouvoir recueillir jusqu'à 1 500 thalers par saison. « Mais auparavant, dit-il, le résultat était meilleur, on donnait plus. » Dans le livre, une souscription m'a sauté aux yeux. 5 pfennig. 1 sou. Ce don est précédé d'un nom quelconque. Cela m'a rappelé ce conseiller d'État russe qui avait offert 5 kopek pour le monument de Lermontov et signé son nom sur la liste. Depuis mon premier séjour à Ems, il y a 2 ans de cela, une circonstance m'a vivement intéressé. Les 2 sources les plus en vogue sont la Krainchen et la Kesselbrunnen. Au-dessus des sources, on a construit une maison et le public est séparé de ces sources par une balustrade. Derrière la balustrade, quelques jeunes filles se trouvent debout, 3 près de chaque source. Elles sont aimables, avenantes et gentiment habillées. Vous leur passez votre verre et elles y versent l'eau. Pendant 2 heures, chaque matin, des milliers de malades défilent devant la balustrade. Chacun boit 2, 3, 4 verres d'eau, ce qu'on lui a ordonné de prendre. La même chose se reproduit le soir. Mais c'est peu que tout se passe méthodiquement, en bon ordre, sans que le malade attende jamais. Le plus étonnant est que ces jeunes filles possèdent une mémoire que je ne puis croire que surnaturelle. Vous leur direz le jour de votre arrivée, « Je bois tant d'onces de Krainchen, par exemple, et tant de lait. » Après cela, pendant tout le mois de votre cure, elles ne se tromperont pas une fois. Elles vous reconnaîtront parfaitement dans la foule et se rappelleront votre dose en vous voyant. De plus, elles prendront souvent 6 ou 7 verres à la fois, verseront dedans ce qu'il faut en un quart de minute et distribueront à chacun son récipient sans erreur. Elles se rappellent que ce verre-ci est le vôtre, que vous prenez tant d'onces d'eau, tant d'onces de lait, et que vous absorbez 2, 3 ou 4 verres. Jamais une méprise. Pour moi, cela demeure un mystère. Une habitude de ce travail, contractée dès l'enfance, peut-elle seule produire ce que j'appellerais une victoire sur le travail? La somme de travail que peut fournir une Allemande a de quoi du reste stupéfier un Russe. Passez un mois à l'hôtel, et ici chaque maison est un hôtel, et vous admirerez comme moi l'activité invraisemblable des bonnes. Dans l'établissement où j'ai pris pension, il y a 12 logements, tous occupés, quelques-uns par des familles entières. Pour servir tout ce monde, il n'y a qu'une jeune fille de 19 ans, que la patronne envoie encore par-dessus le marché faire des commissions. La bonne doit passer à la pharmacie pour celui-ci, chez la blanchisseuse pour celui-là, courir à telle boutique pour un troisième, sans compter les emplettes à faire pour sa maîtresse. Cette dernière est une veuve, mère de 3 enfants, lesquels il faut surveiller, habiller, conduire à l'école, etc. Chaque samedi, la bonne doit laver tous les parquets de la maison, faire les chambres, changer les draps des lits, et, sans attendre ce samedi, nettoyer et mettre en ordre les logements dont les locataires sont partis. Cette jeune fille se couche à 11 heures le soir, et le matin, à 5 heures, sa patronne sonne pour qu'elle se lève. Je n'exagère rien. Ajoutez à cela que la pauvre fille est payée d'une façon dérisoire, et qu'on exige qu'elle soit convenablement vêtue. Et elle n'a aucunement l'air malheureux. Elle est gaie, bien portante, d'une placidité à toute épreuve. Non, chez nous, on ne travaille pas autant. Jamais une bonne Russe n'entrerait dans un pareil bagne pour les gages que reçoit l'Allemande. Et la domestique de chez nous sera oublieuse, sale, cassera, abîmera, sera de mauvaise humeur, dira des grossièretés. Ici, vraiment, je n'ai eu à me plaindre de rien pendant tout le mois. Faut-il louer? Faut-il blâmer? Je louerai plutôt, bien que cela mérite plus de réflexion. Il est bon de dire qu'ici, chacun prend son sort comme il est et s'en contente presque toujours. Chacun ici connaît son travail et ne connaît que cela. Il n'est pas inutile d'ajouter que les maîtresses travaillent autant que leurs domestiques. Les fonctionnaires allemands sont également laborieux, ce qui ne les empêche pas d'être aimables. Prenez un receveur des postes russe. Dans ses rapports avec le public, il sera toujours bourru, irrité, ou tout au moins de mine désagréable. Il est fier comme Jupiter olympien, l'employé, surtout l'employé subalterne, chargé de donner des renseignements en public. Il y a foule, vous attendez longuement votre tour. Vous arrivez enfin au guichet. L'employé ne vous écoutera pas. Il vous tournera le dos pour causer avec un collègue placé derrière lui. Il prendra un papier en feignant d'y chercher un détail d'une extrême importance. Vous voyez bien que tout cela est fait exprès, mais vous attendez patiemment. Et tout à coup, votre employé se lève, quitte le bureau. L'heure sonne, c'est l'heure de la fermeture. Allez-vous-en, bon public! Et notre fonctionnaire russe est occupé bien moins de temps par jour que son confrère allemand. Ce qui le caractérise avant tout, c'est son animosité contre le public. Il tient à vous montrer que vous dépendez de lui. « Moi, semble-t-il dire, je suis derrière le guichet, j'ai le droit de me comporter comme il me plaira. Et si vous vous fâchez, je vous ferai jeter dehors par un garçon de salle. » Ici, à Ems, il n'y a guère à la poste que 2 ou 3 employés. Pendant la saison, en juin et juillet par exemple, il arrive des milliers de voyageurs par jour. On ne se figure pas ce qu'est alors la correspondance, ce que devient le travail des postiers. Ils ont 2 heures dans la journée pour les repas. Le reste du temps, ils sont toujours occupés. Des foules de gens ont une lettre à réclamer, un renseignement à demander. Pour chaque réclamateur, l'employé compulsera des piles énormes de lettres. Il écoutera tout le monde, fournira le renseignement voulu, expliquera, répétera son explication, tout cela patiemment, poliment, de la façon la plus aimable et la plus digne. Pendant quelques jours après mon arrivée à Ems, je vins tous les jours demander à la poste une lettre que j'attendais impatiemment et qui n'arrivait pas. Or, un matin, je trouvais la bienheureuse lettre sur ma table, dans ma chambre d'hôtel. Elle venait d'arriver, et l'employé qui se rappelait mon nom, sans savoir mon adresse, s'était donné la peine de prendre des informations et me l'avait obligeamment fait porter à l'hôtel. Tout cela uniquement parce que, la veille, il avait remarqué mon extrême inquiétude. Quel est le fonctionnaire russe qui agirait ainsi ? Quant à l'esprit des Allemands, il faut bien dire qu'il est diversement apprécié. Les Français, qui ont quelques raisons pour ne pas aimer les Germains, ont toujours déclaré qu'ils étaient lourds, sans vouloir insinuer qu'ils sont obtus, cela s'entend. Ils découvrent dans l'esprit allemand une tendance à toujours vagabonder hors du chemin direct, à compliquer les choses les plus simples. Les Russes, de leur côté, ne tarissent pas sur l'épaisseur et la gaucherie tudesque. Quelle que soit du reste leur admiration pour les aptitudes scientifiques de leurs voisins. Pour mon compte, je trouve que les Allemands ont certains travers bizarres qui les exposent à se faire juger calomnieusement par des étrangers. Certes, j'ai bonne opinion d'eux, mais je comprends que les Allemands produisent quelquefois une impression désagréable sur ceux qui les connaissent mal. Pendant le trajet de Berlin à Ems, notre train s'arrêta de nuit à une station pendant 4 minutes. J'étais fatigué du wagon, je voulus descendre pour me dégourdir un peu les jambes, tout en fumant une cigarette sur le quai. Lorsque la sonnette du départ se fit entendre, je m'aperçus que, grâce à mon éternelle étourderie, j'avais oublié le numéro de mon wagon, dont j'avais fermé la portière en descendant du train. Je n'avais que quelques secondes devant moi et j'allais vite me rendre auprès du conducteur quand je m'entendis appeler. « Voilà mon wagon, » pensais-je. En effet, un Allemand aura toujours l'idée de s'inquiéter d'un compagnon de voyage. Je m'approchai et un visage allemand soucieux parut à la portière. « Was suchen Sie ? Que cherchez-vous ? Je cherche mon wagon, mais ce n'est pas celui-ci, je n'étais pas avec vous. » « Non, ce n'est pas votre wagon. Où est-il, le vôtre ?»« Je ne sais pas, je le cherche. »« Et moi, je ne sais pas non plus où est votre wagon. » Ce ne fut qu'au dernier moment que le conducteur parvint à retrouver le fâcheux wagon. Je me demandais pourquoi cet Allemand m'avait appelé et interrogé. Mais demeurez quelque temps en Allemagne, et vous verrez que tout ton agira de même. Il y a 10 ans, j'étais à Dresde. Le lendemain de mon arrivée, je m'acheminais un peu au hasard vers la galerie de tableaux. Je n'avais pas demandé mon chemin à l'hôtel, pensant que le premier Allemand venu me l'indiquerait. « Le musée de Dresde est assez célèbre, me disais-je, pour que tout habitant de la ville se fasse un plaisir de m'expliquer comment on s'y rend. » J'avisai un Allemand de physionomie sérieuse et intelligente. « Pourrais-je vous demander où est le musée de peinture ?» « Le musée de peinture ?» répéta mon Allemand. « Oui, la galerie de tableaux. »« La galerie royale de tableaux » fit-il en appuyant fortement sur le mot « royal ».« C'est ça même. Je ne sais pas où est cette galerie-là. »«
Il y a donc une autre galerie ?»«
Non, il n'y en a pas d'autre. » Chapitre 5. Le russe ou le français ? Quelle foule de Russes à toutes ces eaux allemandes, surtout aux stations à la mode comme Ems. En général, les Russes aiment beaucoup à se soigner. Même chez Madame von der Frau, qui demeure aux environs de Munich et qui ne possède aucune source dans son établissement, le plus gros contingent des malades est russe. Ce sont, pour la plupart, des gens solides et vigoureux qui viennent chez cette dame, des personnages gradés qui lui envoient de Pétersbourg les bulletins de leur médecin et s'y prennent dès l'hiver pour solliciter une place dans son établissement. C'est une femme sévère et querelleuse. À Ems, vous rencontrez tout d'abord des Russes jargonnant cette extraordinaire langue franco-russe de leur invention. Ce qui m'étonne, ce n'est pas que les Russes ne parlent pas russe entre eux, mais bien qu'il s'imagine parler français. Les Russes instruits, qui croient parler français, se divisent en deux classes. Ceux qui le parlent si mal qu'ils ne se font que peu d'illusions, et ceux qui le parlent presque aussi mal en se figurant qu'on les prendra pour des Parisiens. Toute notre haute société est dans ce dernier cas. Ceux de la première catégorie sont parfois très drôles. Je me rappelle un vieux monsieur et une vieille dame qui causaient d'affaires de famille, évidemment très intéressantes pour eux. Ils s'exprimaient dans un français livresque, en phrases d'un style suranné, maladroit, et avaient souvent le plus grand mal à trouver leurs mots. À la fin, l'un devint si absurde que l'autre se mit à le souffler. Puis ils s'entresoufflèrent. Mais la pensée de parler russe ne leur vint jamais. Ils aimaient mieux risquer de ne pas se comprendre qu'employer une autre langue que le français. Leur prononciation était grotesque. Le franco-russe de la seconde catégorie se distingue aussi d'abord par la prononciation. Mais cette fois, l'accent est plus parisien que nature, atrocement grasseyant et sans sa contrefaçon d'une lieue. Il est également pauvre de vocabulaire, impropre et inexpressif. Jamais les gens très mondains qui s'en servent ne se rendent compte de l'insignifiance d'un pareil patois. Je ne parle pas du français, mais du dialecte dont ils font usage. Ils ne comprennent pas qu'ils parlent une sorte de langue artificielle, incapable de rendre leurs pensées, si étroites qu'elles sont. C'est une langue comme volée. C'est pourquoi jamais un russe n'arrivera à créer en français une de ces expressions vivantes et fortes qui font image, ce qui est à la portée du premier coiffeur parisien venu. Tourguéniev raconte, dans l'un de ses romans, qu'un jeune russe, entrant au café de Paris, s'écria « Garçon, un beefsteak aux pommes de terre !» Un autre russe, plus au courant de la langue usuelle, demanda, une minute plus tard, « Garçon, beefsteak pomme !» Le premier ne put se consoler d'avoir employé une expression archaïque, inélégante, et s'imagina désormais que les garçons du restaurant le regardaient avec mépris. Il y a danger à s'approprier le langage d'un autre peuple pour le sien. Je sais que cette opinion est « vieux jeu », mais je ne la trouve pas si fausse que certains veulent bien le dire. La langue est évidemment la forme, le corps et le vêtement de la pensée. Il s'ensuit que plus la forme de ma pensée sera riche et variée d'aspects, plus je serai compréhensible, et pour moi-même et pour les autres. Nous savons que la pensée est prompte comme la foudre, mais souvent elle s'attarde parce que nous avons l'habitude de penser dans une langue quelconque. Si nous ne pensons pas tout à fait à l'aide des mots de cette langue, nous ne nous en servons pas moins pour cela de la force élémentaire et fondamentale de l'idiome auquel nous sommes le plus habitués. Pourquoi, du reste, apprenons-nous les langues étrangères, le français par exemple? D'abord, tout simplement pour pouvoir lire en français, pour parler avec les Français que nous rencontrerons, mais nullement afin de causer entre nous. La langue empruntée, la langue apprise, ne sera pas suffisante pour dévoiler la profondeur intime de nos pensées, précisément parce qu'elle nous demeurera étrangère malgré tout. Les Russes, du moins ceux des hautes classes, ne naissent plus depuis longtemps avec une langue à eux. Ils acquièrent d'abord une langue artificielle, et ce n'est qu'à l'école qu'ils se familiarisent un peu avec le russe. Je sais bien qu'avec de l'assiduité, ils peuvent arriver à apprendre ce que j'appellerais le russe vivant. J'ai connu un écrivain russe de quelque réputation qui non seulement a appris plus tard le russe qu'il ignorait absolument étant enfant, mais encore s'est familiarisé avec le moujik russe et a écrit des romans sur les mœurs des paysans. Notre grand Pouchkine, lui aussi, de son propre aveu, dut, en quelque sorte, refaire son éducation avec sa bonne Arina Rodionovna, qui l'initia à la langue et à l'esprit du peuple. Et chez nous, les mots « langue » et « peuple » sont synonymes. Et quelle idée riche et profonde se cache là-dessous.
Mais on me dira, qu'importe qu'un enfant ait appris le russe ou le français, s'il le sait de cette façon que j'appelle « vivante ».
Eh bien, je prétends que, pour un russe, le russe sera toujours plus facile et qu'il faut dès l'enfance l'emprunter au peuple, aux bonnes, par exemple, comme le fit Pouchkine. Il est absurde de craindre pour l'enfant le contact du peuple, contre lequel tant de pédagogues mettent en garde les parents. À l'école, ensuite, il ne sera pas mauvais d'apprendre les légendes, les traditions et même le vieux slave d'église. Une fois que l'on saura sa langue maternelle d'une façon vivante, que l'on aura pris l'habitude de penser dans cette langue, il sera temps de mettre à profit cette prodigieuse facilité qu'ont les Russes à apprendre les langues étrangères. Ce n'est en effet qu'après nous être bien pénétrés de la langue maternelle qu'il nous sera possible d'acquérir avec perfection un idiome du dehors. Nous pourrons alors enrichir notre esprit de quelques formes de pensées étrangères et les concilier avec les nôtres. Il existe un fait assez remarquable. Notre langue, si peu polissée qu'elle paraisse, rend sans difficulté toutes les nuances de la pensée étrangère. Les poètes et les philosophes de l'Europe entière se traduisent à fond en russe. Au contraire, nombre d'œuvres écrites dans notre langue sont intraduisibles en un autre idiome, surtout en français. Je ne puis me rappeler sans rire une traduction, à présent très rare, d'un livre de Gogol par M. Viardot, mari de la célèbre cantatrice. Un écrivain russe, alors débutant, maintenant célèbre, avait collaboré à cette version. Eh bien, ce n'était pas le moins du monde du Gogol, c'était un galimatia. Pouchkine, de même, est souvent intraduisible. Pourquoi cela ? Je suis désolée de dire qu'il est possible que l'esprit européen ne soit pas aussi divers que le nôtre, qu'il soit moins complexe et plus étroitement particularisé. Les étrangers écrivent peut-être avec plus de précision, mais l'esprit de notre langue est beaucoup plus riche. Il est universel, il embrasse tout. Pourquoi priver nos enfants d'un tel trésor ? Pour les rendre malheureux, sans doute, car nous avons bien tort de mépriser notre idiome, de le considérer comme rude et grossier. Oui, nous, les gens des classes dites supérieures, nous naissons sans avoir une langue bien à nous. Et cependant, dès que le russe vivant redeviendra en honneur parmi nous, l'union se refera toute seule entre nous et le peuple. Supposons que je soumette ces observations à une mère de famille des hautes classes. Elle se moquera de moi. Peu lui importe en quelle langue pensent ses enfants chéris. Si c'est en parisien, tant mieux, ce sera bien plus élégant. Mais, et elle ne le sait pas, il faudra pour cela que ses enfants apprennent véritablement le français à fond. Tant qu'ils ne parleront qu'un à peu près de parisien, ils n'en seront qu'au degré où l'on cesse d'être russe. Les parents ne savent pas le mal qu'ils font à leurs enfants en engageant pour eux, dès l'âge de 2 ans, une bonne étrangère. Ils n'ignorent pas qu'il y a une terrible habitude physique qui commence chez quelques pauvres enfants dès l'âge de 10 ans et qui, si on ne les surveille pas, peut les rendre idiots, en faire des êtres flétris. Je me risquerais à dire qu'une bonne française, c'est-à-dire le français seriné dès les premiers balbutiements, est aussi dangereuse au point de vue mental que la terrible habitude en question au point de vue physique. Passe encore si l'enfant est bête. Il vivra dès lors avec son français imparfait et pauvre, rabâchant de petites phrases monotones, courtes, comme les idées qu'il exprimera. Il aura une cervelle de coiffeur et mourra sans s'être aperçu que, toute sa vie, il n'a été qu'un imbécile. Mais si l'homme a des facultés intellectuelles d'un certain ordre, il souffrira. N'ayant pas un vocabulaire assez étendu pour rendre tout ce qu'il aura dans sa pensée, maniant pendant toute son existence une langue malingre, anémique et volé, il languira dans un effort continuel, incapable d'ouvrir complètement son âme à personne. Mettons que, plus tard, il fasse l'effet d'un personnage brillant, qu'il commande, qu'il administre avec succès, qu'il en vienne à être satisfait de lui-même, surtout quand il aura fait de longs discours à l'aide de pensées et de mots empruntés à autrui. Eh bien, il sera malheureux quand même s'il est ce que j'appelle un homme. Il sera toujours dans l'angoisse, atteint d'une faiblesse incurable, comme ces vieillards prématurés, victimes d'une funeste habitude. Mais quelle mère croira que tant de mal peut résulter de l'entrée dans sa maison d'une bonne Française ? Elle ne sera pas seule à blâmer ma façon de voir. Et pourtant, j'ai dit la vérité sans aucune exagération. On va me dire que, bien au contraire, la connaissance d'une langue étrangère simplifie la vie, épargne bien des difficultés. « Comment voulez-vous » ajoutera-t-on. « Comment voulez-vous qu'il souffre, ce jeune homme charmant, disert, élégant ?» Et la mère sourira avec orgueil. Pourtant, moi, j'affirme que ce gandin délicieux n'est qu'un prolétaire de l'esprit, sans sol sous ses pieds, sans racines et sans fond, un pauvre être sans consistance, flottant à tous les vents de l'Europe. Il pourra être adorablement ganté, farci de romans à la mode, mais son esprit errera dans les ténèbres éternelles. Et je crois que sa maman seule sera très contente de lui. Chapitre 6. Les os ou le bon ton ? Je ne décrirai pas Ems. Ce travail a été fait 50 fois. Des quantités d'ouvrages russes en parlent. Par exemple, le petit livre du docteur Hirschhorn, Ems et ses sources, publié à Pétersbourg. On peut puiser dans ce volume des notions de toutes sortes. Il y a de tout là-dedans. Des considérations médicales et des détails sur la vie d'hôtel, des règles hygiéniques et un guide du promeneur, de la topographie et des aperçus sur le public d'Ems. Quant à moi, je n'ai plus rien à glaner et me contenterai de me rappeler le pittoresque défilé du Taunus où Ems est situé, la foule brillante et ma solitude dans cette foule. Malgré mon isolement, j'aime cette foule à ma manière. J'ai même rencontré dans le flot des promeneurs une personne de connaissance, un Russe d'humeur paradoxale. Il a, comme moi, bu déjà pas mal de verres d'eau à Ems. C'est un homme d'environ 45 ans. « C'est vous qui avez raison, m'a-t-il dit. On aime la foule d'ici, on l'aime sans savoir pourquoi. Et même partout on aime la foule. J'entends la foule fashionable, le gratin. On peut ne fréquenter personne de toute cette société, mais il n'y en a pas de meilleur au monde. Voyons, voyons, je ne cherche pas à vous contrarier, fit-il bien vite. Quand il y aura sur la terre une société à peu près raisonnable, on ne voudra même plus penser à celle d'aujourd'hui. Mais à présent, par quoi remplaceriez-vous ce que nous avons ? Ne peut-on vraiment se figurer quelque chose de mieux que cette foule oisive ? Que ces flâneurs qui ne savent que faire de leur journée ? Je ne dis pas qu'on ne rencontre pas ici de braves gens dans le tas, mais l'ensemble ne me paraît digne ni d'admiration ni même d'une attention particulière. Vous parlez en misanthrope ! Où prenez-vous que tous ces promeneurs ne sachent que faire de leur journée ? Croyez bien que chacun a son œuvre à lui pour laquelle il a peut-être gâté sa vie. Et puis ce sont, en majorité, des souffrants. Ce qui me plaît en ces martyrs, c'est leur gaieté. Il rit par genre. Il rit par habitude. Et si vous étiez vraiment humain, vous les aimeriez. Et alors, vous vous réjouiriez de voir qu'ils peuvent oublier un instant et s'amuser de mirages. Pourquoi diable voulez-vous que je les aime tant que cela ? Parce que l'humanité nous le commande. Et comment ne pas aimer l'humanité depuis une dizaine d'années? Il n'est plus possible de ne pas aimer l'humanité. Il y a ici une dame russe qui en raffole de l'humanité. Je ne ris pas du tout. Mais pour ne pas m'éterniser sur ce thème, je veux conclure en vous disant que toute société fashionable comme celle-ci possède certaines qualités positives. D'abord, la société fashionable d'aujourd'hui retourne à la nature. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là vivent d'une façon plus artificielle que les paysans, par exemple? Je ne parle pas du monde des fabriques, de l'armée, des écoles et universités. Tout cela, c'est le comble de l'artificiel. Ceux-ci sont plus libres que le reste des hommes, parce qu'ils sont plus riches et peuvent vivre comme ils l'entendent. Et ceux-ci retournent à la nature, à la bonté. On se parle avec une extrême politesse, c'est-à-dire avec l'exagération de la tendresse. Tout le monde veut être aimable et gai. On dirait que tout le bonheur de ce grand gaillard qui porte une rose à sa boutonnière consiste à égayer cette grosse dame de 50 ans. Qu'est-ce qui le pousserait à s'empresser auprès d'elle sans cela? Pour moi, le principal, c'est que le bon ton force à l'amabilité. C'est déjà un résultat des plus importants. Pourquoi notre société a-t-elle rejeté tous les personnages de Byron, les corsaires, les Childe Harolds, les Lara? Parce qu'ils étaient de mauvais ton, méchants, impatients, et ne se souciaient que d'eux-mêmes. Des êtres pareils romperaient l'harmonie de bon ton. Qui veut que l'on fasse au moins semblant de vivre tous les uns pour les autres? Regardez, voici qu'on apporte des fleurs, des bouquets pour les dames, des fleurs détachées pour les boutonnières des messieurs. Sont-elles belles, ces roses? Ont-elles été assez soignées, travaillées? Sont-elles assez bien assorties? Jamais une fille des champs ne saura cueillir rien de pareil pour le jeune gars qu'elle aime. Ces roses seront vendues 5 ou 10 fdénings la pièce, parce que nous sommes encore dans le siècle de l'or et du lucre. Mais y a-t-il quelque chose de plus gracieux que d'apporter des fleurs à des malades? Les fleurs, c'est l'espoir. Toute la poésie de la vie est en elles, avec tout le charme de la nature. Cela se vend aujourd'hui, cette idée charmante de fleurir les souffrants. Quand toute la bonté naturelle sera revenue aux hommes, on se couronnera mutuellement de fleurs, gratuitement, rien que par amour les uns pour les autres. Pour mon compte, j'aime mieux tirer mon fténing de ma poche et être quitte. C'est exiger beaucoup que demander l'amour universel. En attendant, nous avons le simulacre de l'âge d'or qui n'est pas notre siècle de l'or. Si vous êtes un homme d'imagination, vous devez être content. Oui, la société moderne doit être encouragée, fût-ce aux dépens de la masse des hommes. Elle produit le faste et le bon ton que le reste de l'humanité se refusera décidément à nous procurer. Ici, on m'offre un tableau exquis, un tableau qui m'est gai, et la gaieté se paie toujours. Écoutez et voyez. La musique retentit, les hommes rient, les femmes sont parées. Mais grâce à ces os, je participe au bonheur d'une élite. Après cela, avec quelle joie nous irons boire notre affreux café allemand. Voilà ce que j'appelle les avantages positifs de la bonne société. Vous riez, mais ce n'est pas neuf tout cela. Je ris, mais dites-moi si votre appétit s'améliore depuis que vous prenez les os. Naturellement, et d'une façon extraordinaire. Ainsi, les avantages positifs du bon ton sont tellement forts qu'ils agissent même sur votre estomac. Mais ce n'est que l'influence des os, et non pas celle du bon ton. Et celle du bon ton, monsieur, incontestablement. On ne sait pas au juste ce qui fait le plus d'effet, les os ou le bon ton. Les docteurs eux-mêmes hésitent à quoi donner la palme. La médecine a fait un pas immense ces temps-ci. Aujourd'hui, elle donne jusqu'à des idées. Autrefois, elle ne nous offrait que des drogues. Chapitre 7. L'homme comblé de bienfaits par la femme moderne. Naturellement, je ne vais pas reproduire toutes mes conversations avec cet homme paradoxal. mais nous eûmes un jour un entretien sur les femmes que je veux rapporter. Il me fit observer que je regardais les femmes de trop près. Ce sont les Anglaises que je regarde de si près et avec intention. Figurez-vous que j'ai emporté de Russie deux brochures pour la route. L'une, c'est « La question d'Orient » par Granowski, l'autre traite des femmes. Dans ce dernier opuscule, j'ai trouvé de fort belles pensées. Une phrase, pourtant, m'a plongée dans l'étonnement. L'auteur écrit, sans dire gare, « Tout le monde sait ce que vaut une Anglaise. C'est un type très haut de la beauté et des qualités d'âme féminine. Notre femme russe est loin de l'égaler. »
Ce n'est pas mon avis.
Il se peut que l'auteur de la brochure ne soit pas marié et n'ait pu encore prendre connaissance de toutes les vertus de la femme russe.
Quoi que vous le disiez en vous raillant, vous avez raison. Les Russes n'ont pas à renier leur femme. En quoi notre femme russe est-elle inférieure à une autre?
Je ne vous parlerai pas du type idéal imaginé par Tourguéniev ou par Tolstoï, bien que ce type même soit une grande preuve. Si cet idéal est réalisé dans une œuvre d'art, c'est qu'il correspond à quelque chose de déjà existant dans la nature. Il doit y avoir de telles femmes dans la réalité. Je ne parlerai pas davantage des femmes de décembristes, ni d'autres exemples plus ou moins célèbres. Mais moi, qui ai vécu avec le peuple russe, je ne suis pas sans connaître bien des traits à l'honneur de la femme russe. Et dans quel milieu, dans quels antres horribles, dans quels repères de vices se cachait parfois la beauté morale. Je ne veux pas établir de comparaison, ni mettre à toute force les femmes de notre pays au-dessus de toutes celles de l'Europe. Je dirai seulement ceci. Il me semble que les hommes de toute nationalité devraient aimer par-dessus tout les femmes de chez eux. Si des hommes commencent à préférer les femmes de l'étranger à celles de leur propre milieu, je crois que leur peuple n'est pas loin de sa décomposition et de sa fin. Dans ces derniers 100 ans, il s'est passé chez nous une chose analogue. La Russie cultivée a semblé rompre avec le peuple. Mais j'en reviens aux femmes. Nous subissons facilement le charme des Polonaises, des Françaises, voire des Allemandes. Voici un écrivain qui donne la palme aux Anglaises. Ces symptômes ne me rassurent aucunement. Il y a là comme une nouvelle rupture avec notre nationalité, ou tout au moins l'indice d'un goût d'amateur de sérail. Il faut revenir à la femme russe, rapprendre à la bien connaître si nous ne la comprenons plus.
Je suis prêt à m'entendre avec vous sur tous les points, bien que je me figure que vous inventiez une nouvelle loi ethnique. Mais pourquoi avez-vous cru que je voulais railler, quand j'ai insinué que sans doute l'écrivain ne s'était pas donné la peine d'étudier les qualités des femmes russes? Il ne peut y avoir là aucune malignité de ma part, car je puis dire que j'ai été comblé de bienfaits par la femme russe. J'ai été moi-même le fiancé d'une de mes compatriotes. Cette demoiselle était d'un monde, pour ainsi dire, supérieur au mien. Elle était fort recherchée par les épouseurs. Elle pouvait choisir et elle...
Elle vous a préféré?
Pas du tout. Elle m'a refusé. Et voilà l'affaire. Franchement, j'étais plus heureux avant de me fiancer avec elle. Je la voyais tous les jours et je crois que je ne lui faisais pas trop mauvaise impression. Un beau jour, nous échangeâmes nos paroles, je ne sais comment, à propos de rien. Cela demeura entre nous, il n'y eut rien d'officiel. Mais quand je pus me reprendre un peu, l'idée que je serais bientôt la moitié d'une créature aussi brillante m'accabla comme un poids. Comment, me disais-je, moi, le plus nul, le plus commun de ses adorateurs, j'allais devenir le maître d'un pareil trésor? Je n'étais guère digne d'un pareil bonheur. Et entre nous, je vous avouerai que je trouve qu'il faut avoir une rude couche de vanité pour se marier. Comment oser se comparer à un être aussi exquis qu'une demoiselle du monde, toute grâce et perfection, riche en éducation, en boucles de cheveux, en toilettes de gaz, en innocence, en opinions, en sentiments? Et je puis imaginer que toutes ces merveilles vont entrer dans mon appartement inélégant, un appartement où je me promène en robe de chambre.
Vous riez, mais c'est une pensée affreuse que celle que j'exprime. Ah, il y a des gens tranchants qui me diront « Alors, prenez une Cendrillon !»« Mais non, je ne veux pas m'abaisser !» Bref, quand, plein de désespoir, je m'allongeais sur mon divan, un canapé exécrable au ressort cassé, il me vint l'idée la plus frivole du monde. « Quoi ? » songeai-je. « Voilà que je vais me marier, et je ne verrai plus traîner ici que des chiffons et des patrons !» Je conviens que cette réflexion était des plus vulgaires. Elle fut pour moi abominable. Je me la reprochais violemment. Et je sentis que ma vie se passerait désormais à me faire des reproches violents à moi-même pour chacune de mes pensées, pour chacune de mes actions. Pourtant, quand elle m'expliqua, quelques jours après, le sourire aux lèvres, qu'elle avait plaisanté et qu'elle allait épouser un fonctionnaire, je fis une grimace si douloureusement effroyable qu'elle prit peur, me crut malade et courut me chercher un verre d'eau. Je reviens à moi, mais cette petite scène me fut très utile. Elle vit comme je l'aimais. Et moi qui pensais, me dit-elle plus tard, une fois mariée avec son fonctionnaire, qu'un homme sérieux et savant comme vous me mépriserait sûrement. Depuis lors, j'ai une grande amie en elle, et je répète que si quelqu'un a été comblé de bienfaits par une femme russe, c'est bien moi, et je ne l'oublierai jamais. De sorte que vous êtes devenu l'ami de cette dame. Ami au suprême degré, mais nous nous voyons rarement, une fois par an, et pas toujours. D'abord, je ne les ai presque pas fréquentés parce que la position du mari était par trop supérieure à la mienne. À présent, elle est si malheureuse que cela me fait mal de la voir. Son mari, un homme de 62 ans, a été traduit devant les tribunaux 1 an après le mariage et a dû, pour combler un déficit dans sa caisse, abandonner presque toute sa fortune au fisc. Il est devenu paralysé et à présent on le roule dans un fauteuil à Krushnark, où je les ai vus il y a 10 jours. Elle marche à côté du fauteuil roulant, et doit écouter sans répit les reproches les plus féroces. J'ai eu tant de chagrin de la voir comme cela, que j'ai quitté Krushnark pour venir ici. Je suis heureux de ne pas vous avoir dit leur nom. Le pis, c'est que je l'ai fâchée en lui disant franchement mes vues sur le bonheur et les devoirs de la femme russe. « Vous avez bien choisi votre auditrice. »« Ne vous moquez pas de moi. Il me semble que le plus grand bonheur est de savoir pourquoi l'on est malheureux. Puisque nous y sommes, laissez-moi vous dire tout mon sentiment sur le bonheur et les devoirs d'une femme russe. À Krushnark, je n'ai pu achever. » Chapitre 8. Les enfants. Mon ami est fort paradoxal, je vous l'ai dit. Cependant, ses opinions sur le bonheur et les devoirs de la femme russe ne brillent pas par leur originalité, bien qu'il les expose avec véhémence. Selon lui, pour être heureuse et accomplir tous ses devoirs, la femme russe doit se marier et avoir le plus d'enfants possible. Non pas 2 ou 3, mais 6, 10, jusqu'à extinction des forces. C'est alors seulement qu'elle connaît la vie vraie dans toutes ses manifestations possibles. En ne sortant pas de sa chambre à coucher. Je connais toutes vos objections, et la culture d'esprit, etc. Mais je me demande comment les études peuvent t'empêcher de se marier et d'avoir des enfants. Eh mon Dieu, les études d'abord, ensuite le mariage et les enfants. Et puis rien de plus intelligent que de faire des enfants. Je sais bien que Tchatchki a dit « Quel est celui, quelle est celle qui n'a jamais eu assez d'esprit pour faire des enfants ?» Mais Tchatchki n'avait aucune instruction, il ne sut pas même écrire son testament. Il a laissé ses terres à une personne inconnue, à son ami Sonitchka. Maintenant, Dieu soit loué, il y a aujourd'hui nombre d'hommes instruits chez nous, et ils ont des enfants, et savent que c'est là l'affaire la plus sérieuse du monde. Malheureusement, aujourd'hui en Europe, je ne dis pas chez nous, mais en Europe, la femme cesse d'enfanter. Comment, cesse d'enfanter. Il faut vous dire en passant que mon ami adore les enfants, les petits marmots surtout. Il court après eux. À Ems, il était connu pour cela. Il aime à se promener où on en rencontre. Il fait leur connaissance, n'eussent-ils qu'un an. Et il est arrivé à ce résultat que des tout-petits le reconnaissent très bien et lui sourient, lui tendent leurs petites mains. C'est une passion chez lui. Tel que vous me voyez, j'ai acheté aujourd'hui 2 petites flûtes. Pas pour des écoliers, ils sont grands ceux-là, mais pour 2 crapauds de 2 et 3 ans, 2 frères. Ils s'extasiaient devant les joujoux. La marchande, une rusée allemande, a bien compris de quoi ils retournaient et leur a coulissé une flûte à chacun. J'en ai été pour mes 2 marques. Les petits étaient ravis. Ils trottinaient en flûtant. Il y a 1 heure de cela, et ils flûtonnent encore. Je vous disais l'autre jour que ce qu'il y avait de meilleur au monde, c'est la société raffinée. Eh bien, je me trompais. Ce qu'il y a de meilleur, c'est cette foule d'enfants que l'on voit à Ems. Ah, pourquoi Paris s'est-il arrêté? Comment arrêté? À Paris, il y a une industrie admirable qui est celle de l'article Paris. C'est cela qui, joint aux fruits et aux vins, a aidé le pays à payer 5 milliards aux Allemands. Malheureusement, les Parisiens sont si occupés de cette industrie qu'ils en oublient de procréer des enfants. La France a suivi l'exemple de Paris. Chaque année, un ministre déclare aux chambres que la population reste stationnaire. Les enfants ne naissent plus, ou s'ils naissent, ils ne vivent pas. Mais, ajoute le ministre avec orgueil, nos vieillards tiennent bon. Ah, qu'ils crèvent donc, les vieillards! La France en farcit ses chambres. Y a-t-il là de quoi se réjouir? Il y a un écrivain français assez absurde, un idéaliste de la nouvelle école, Alexandre Dumas fils. Absurde soit, mais il a parfois de bons mouvements. Il demande par exemple à la femme française d'enfanter. Il a aussi dévoilé un secret de la bourgeoisie parisienne. La bourgeoise aisée ne veut que 2 enfants, pas 1 de plus. Elle s'arrange avec son mari pour cela. Elle en a 2, et puis elle se met en grève. Pour 2 enfants, il reste plus de fortune que pour 6. Et puis la femme se conserve plus longtemps. Elle continue à vivre maritalement avec son mari, mais rien que pour leur plaisir à tous 2. Malthus n'était pas de leur force. En France, il y a beaucoup de propriétaires, et grâce aux malins époux, les propriétés se fractionnent peu. Les trouvailles de ces gens ingénieux se répandent dans toute l'Europe. Du reste, si Ems est en retard à ce point de vue, Berlin est terriblement avancé. Les ministres français ne se préoccupent que du sort de la bourgeoisie. Mais il y a le peuple, parfois non baptisé, dont bien des couples vivent en union libre. Cela jette de temps à autre leurs nouveau-nés à la rue. Les gamins parisiens naissent et meurent. Ils ne vivent pas. Si par hasard ils résistent, ils remplissent les hospices pour enfants trouvés, et les prisons pour criminels en bas âge. Dans Zola, un réaliste, comme nous disons, on trouve une peinture très vraie du mariage français contemporain, de la cohabitation conjugale dans son roman « Le ventre de Paris ». Remarquez que les Gavroches d'aujourd'hui ne sont plus du tout des Français. Et les autres, ceux qui naissent propriétaires, ne sont pas plus des Français. La France cesse d'être la France. Je sais qu'il y a des gens qui se réjouiront de voir les Français disparaître. La race dégénérée s'affaiblit, et le moral est influencé par le physique. Ce sont les fruits du règne de la bourgeoisie. Selon moi, la principale faute remonte au système de propriété. Je vais vous l'expliquer. Chapitre 9. La terre et les enfants. La terre est tout, continua mon homme paradoxal. Je ne sais pas distinguer la terre des enfants, c'est instinctif chez moi. Je ne développerai pas cette idée, réfléchissez, et vous me comprendrez. Des millions de pauvres ne possèdent pas de terre, surtout en France. Ils mettent au monde leurs enfants dans des caves, et ce ne sont pas même des enfants, ce sont des gavroches, dont la moitié ne saurait dire les noms des pères qui l'ont engendré, dont l'autre moitié peut-être ignore ses mères. Les enfants doivent naître sur la terre et non pas sur le pavé. Je ne sais pas comment les choses s'arrangeront plus tard, mais les pauvres ne savent pas aujourd'hui où mettre au monde leurs enfants. J'admets que l'on travaille en fabrique. Je ne vois rien de mal à cela. Une fabrique peut souvent s'élever auprès de champs cultivés. Mais alors, que chaque ouvrier d'une fabrique ait à lui un jardin, ou plutôt qu'il y ait un jardin commun à tous. Le jardin ne nourrira pas tout le monde, et l'ouvrier ne pourra se passer de sa paye à la fabrique. Mais qu'il ait au moins la joie de savoir que ses enfants croissent au bon air, sous des arbres, en pleine nature. Lui-même viendra se reposer dans son jardin après son travail. Qui sait si, plus tard, son jardin ne le nourrira pas. Il n'y a pas à avoir peur des fabriques. Pourquoi ne les construirait-on pas au milieu de jardins? Je ne sais pas comment tout cela se fera, mais il faut que cela arrive. Il faut un jardin. Les enfants ont besoin de l'odeur de la terre pour croître. Le pavé n'a rien de vivifiant. Il faut que les enfants sortent, en quelque sorte, de la terre comme de petits Adam. Et il ne faut pas qu'à 9 ans, quand ils ont encore besoin de jouer, on les envoie dans un atelier malsain se dévier la colonne vertébrale au-dessus d'un métier et s'abrutir à adorer la stupide machine devant laquelle le bourgeois se met à genoux. Il ne faut pas que dès cet âge on les expose à la corruption des fabriques, auprès desquelles Sodome et Gomorre étaient des lieux innocents. Si je vois quelque part le germe d'un meilleur avenir, c'est chez nous, en Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a en Russie un principe demeuré intact dans le peuple, à savoir que la terre est tout pour lui, qu'il tire tout de la terre. Toute l'humanité devrait comprendre cela. Il y a quelque chose de sacré dans la terre, dans la glèbe. Si vous voulez faire de vrais hommes, les arracher à la bestialité, donnez-leur de la terre et vous arriverez à vos fins. Au moins chez nous, en Russie, il y a abondance de terre. Il y a aussi l'organisation de la commune. Tout, dans chaque pays, dépend de la terre et du mode de propriété. Tout prend le caractère qu'a revêtu la propriété foncière. C'est grâce au consentement de la terre que nous avons pu abolir le servage. J'ai lu récemment les mémoires d'un gentilhomme terrien russe, écrit vers la moitié du siècle. L'auteur, dès 1820 et quelques, voulait libérer ses paysans. Il fonda une école où il fit apprendre aux enfants à chanter en chœur les chants d'église. Un propriétaire voisin, qui les entendit chanter, affirma qu'on donnerait un bon prix de ce chœur de petits paysans. On ne pensait guère à l'émancipation, et notre gentilhomme était un phénomène alors. Quand il parla de liberté à ces moujiks, leur premier mot fut « Et la terre ?» Il leur répondit « La terre est à moi, et vous la travaillerez en partageant les bénéfices avec moi de moitié. » Les moujiks se grattèrent l'oreille. « Eh bien, non, répondirent-ils, nous aimons mieux rester comme nous sommes. Nous vous appartenons, soit, mais la terre nous appartient. » Le propriétaire fut abasourdi. Quel peuple de sauvages! Ils refusaient la liberté, le premier de tous les biens, etc. Plus tard, cette formule « Nous sommes à vous, mais la terre est à nous » s'est répandue et n'a plus étonné personne. Le Russe a toujours confondu excellemment ces deux idées, celle de l'existence de la terre et celle de sa propre existence. Il n'acceptait pas la liberté sans la terre, qui est tout pour lui, la base de tout. C'est grâce à cette formule qu'il a pu conserver sa commune. Chapitre 10. Un été. Le lendemain, j'ai dit à mon paradoxal ami « Tenez, vous qui avez la passion des enfants, je viens de lire quelque chose qui vous intéressera. C'est dans un journal russe que j'ai trouvé cela. et il s'agit de ce qui se passe en Bulgarie, où l'on a massacré d'un seul coup la population d'un district entier. Une vieille femme a échappé à l'hécatombe. Elle erre, folle, sur les ruines de son village. On l'interroge. Au lieu de parler comme tout le monde, elle se met à chanter, et à chanter des vers improvisés, qui disent qu'elle avait une maison, une famille, un mari, 6 enfants, dont les plus âgés avaient aussi des enfants, ses petits-enfants, à elle. Les bourreaux turcs sont venus, ont brûlé vif son mari, un vieillard, ont égorgé ses enfants, ont violé une de ses petites filles, puis une autre encore, qui était fort belle, ont éventré les petits à coups de yatagan, enfin brûlé la maison et jeté les cadavres dans les flammes. Elle a vu tout cela et entendu les cris des enfants.
« Moi aussi j'ai lu l'article !» répondit l'homme paradoxal. « C'est effrayant, effrayant ! Et que dites-vous de cette malheureuse femme qui raconte ses atrocités en vers ? Et notre critique russe qui, tout en louangeant tel ou tel poète, croit surtout que les vers sont des amusettes. Voilà le poème épique tel qu'il a pu être à son origine. Il y a là toute une question qui intéresse l'art. »
Ne feignez pas de plaisanter. Du reste, je sais que vous n'aimez pas à parler des affaires d'Orient.
Non, j'ai souscrit, et c'est assez. Il y a surtout là-dedans quelque chose que je n'aime guère.
Quoi donc ?
Eh bien, cette exagération de notre amour pour les Slaves d'Orient.
Que dites-vous là ? Je suis bien sûr.
Ne finissez pas votre phrase, puisque je vous dis que j'ai souscrit dès le début. La question d'Orient a été exploitée par les slavophiles. Quelques-uns ont trouvé le moyen de faire leurs petites affaires de ce côté-là, de trouver des carrières, de faire leur réputation. Voyez ce qui s'est passé en Herzégovine. Je ne dis rien contre cela. L'excès d'amour est en lui-même une chose excellente. Mais on a été trop loin. Enfin, il y a eu du sang russe de versé. C'est chose grave. Nous voici forcément engagés dans la lutte.
Vous aviez cru avant cela que nous pourrions abandonner nos frères ?
Oui, pêcheur que je suis, je l'avais cru. À Belgrade, lors de l'entrée des Turcs sur le territoire serbe, on a crié « Abba Tchernaïev ». Quelques-uns, il est vrai, affirment que c'est faux, que les Serbes adorent la Russie et attendent tout de Tchernaïev. Moi, je crois aux renseignements des uns et des autres. Il y a eu des cris des deux paroisses, c'est certain. Mais je me suis imaginé que ce désaccord même refroidirait la Russie. Il n'en a été rien. Le peuple russe a parlé en faveur de ses frères d'Orient et il n'a été question d'aucune annexion. Il ne s'est agi que de l'œuvre orthodoxe et nos Russes n'ont refusé ni leur sou ni leur tête. Remarquez cette formule, l'œuvre orthodoxe. Elle a son importance. Elle semble devoir engager notre avenir. On ne peut pas en vouloir à l'Europe de croire que nous faisons une affaire d'accaparement de territoire. Elle accaparerait. Mais voici que nous allons entrer en collision avec l'Europe. Pour l'Europe, la Russie est inintelligible. Les malentendus vont se multiplier. Enfin, le résultat de toutes ces complications est que nous trouvons en Orient de véritables frères, toute rhétorique mise à part. Ce n'est pas le comité slavophile, c'est le peuple, c'est la terre qui a parlé. Je ne l'aurais jamais pensé. Oui. J'ai lu ce dont vous me parliez au sujet de cette malheureuse mère bulgare. Mais une autre mère s'est fait connaître, la mère Russie qui vient d'adopter de nouveaux enfants. Et retenez bien ceci. Il faut qu'elle reste la mère, rien que la mère. Elle ne doit pas devenir le tyran. Elle doit continuer à prodiguer ses bienfaits à ses nouveaux enfants comme une mère véritable et ne pas se dépiter si quelques-uns ont élevé la voix contre elle. Cet été marquera dans notre histoire.
Post-scriptum. J'ai entendu répéter plusieurs fois cet été « Le peuple russe est inintelligible, invraisemblable ». Pour ceux qui portaient ce jugement, ce qui s'est passé cet été est en effet invraisemblable. Mais, au fond, que s'est-il passé de si monstrueux ? Tout ce qui s'est manifesté n'était-il pas depuis longtemps au fond du cœur du peuple russe? L'idée nationale a surgi, puis tout naturellement s'est élargie en amour désintéressé pour des frères de race malheureuse et opprimée. Puis ça a été cette formule, l'œuvre orthodoxe. Ce qui est peut-être surprenant, c'est que le peuple n'ait pas oublié son œuvre orthodoxe pendant ses 200 années de servitude, d'ignorance morne, et plus tard, au milieu d'une corruption ignoble, sous l'influence du matérialisme, des juifs et de l'eau-de-vie. On a pu être surpris aussi de voir se joindre au mouvement toutes ces classes de la société russe dont la rupture avec le peuple semblait un fait accompli. Il est bon de faire ressortir aussi, comme un phénomène sans précédent, la presque unanimité de notre presse. Une pauvre vieille offre ses copecs pour les Slaves et ajoute « pour l'œuvre orthodoxe ». Le mot est saisi au vol par un journaliste qui l'accompagne dans sa feuille d'un commentaire enthousiaste. Et tous ont compris ce que signifiait cette expression d'œuvre orthodoxe. On a vu qu'il n'était pas question de culte extérieur ou de fanatisme religieux, que l'expression concrétait l'idée de progrès humain, d'humanisation de l'homme tel que l'admet le peuple russe, qui fait tout remonter au Christ, qui ne voit son avenir que dans l'application de la doctrine du Christ, qui ne peut pas se figurer sa propre existence sans le Christ. Les négateurs, les sceptiques, voire les vulgarisateurs des nouvelles lois sociales, se sont tout à coup montrés de chauds patriotes russes. Je parle du plus grand nombre. Il s'est rencontré chez nous incomparablement plus de vrais Russes que ne l'avaient cru jusqu'à présent beaucoup de nos compatriotes qui se vantaient d'être de vrais Russes. Comment tous ces hommes se sont-ils trouvés soudainement unis? C'est que l'idée slave a cessé d'être une idée simplement slavophile, théorique. Elle s'est gravée profondément, non plus seulement dans le cerveau, mais dans le cœur de tous les Russes, à la suite des tragiques événements d'Orient. Mais qu'est-ce que l'idée slave que nous distinguons de l'idée slavophile? C'est, avant toutes ces interprétations historiques ou politiques, un besoin de sacrifice pour nos frères, le sentiment du devoir volontaire poussant les plus forts des Slaves à aider les plus faibles, pour la plus grande puissance et la plus grande union future de toute la race slave. C'est l'idée du panslavisme à venir, le désir de répandre la vérité du Christ, c'est-à-dire l'amour de tous pour toute l'humanité, afin qu'il n'y ait plus de faibles et d'opprimés dans ce monde. Et cela doit être, puisque les races slaves ont évolué, ont progressé dans la souffrance. Nous nous étonnions plus haut que le peuple russe n'eût pas perdu dans la servitude le sentiment de son œuvre orthodoxe. Sans doute, c'est une de ses qualités slaves que de pouvoir s'élever d'esprit dans la souffrance et dans l'humiliation. Accablé sous le fardeau de la croix, humble d'aspect comme un esclave, ô terre natale, le roi du ciel t'a parcouru toute en te bénissant. Le peuple russe, lui aussi, a été accablé sous le fardeau d'une croix pendant plusieurs siècles. C'est pourquoi il n'a oublié ni son œuvre orthodoxe, ni ses frères qui souffrent. C'est pourquoi toutes ces classes se sont unies dans un même sentiment fraternel. Toute idée haute qui mène à l'union est un bonheur immense pour une nation. Ce bonheur nous a visités. La société cultivée et le peuple ont compris d'eux-mêmes leur devoir de slave. L'Europe ne s'y est pas méprise et elle suit avec inquiétude notre mouvement. Une idée politique consciente venant de notre peuple est pour elle une surprise extraordinaire. Elle pressent quelque chose de nouveau avec quoi il faudra compter. Nous avons grandi dans son estime. Les racontars, longtemps accrédités en France sur la décomposition politique et sociale de la Russie, devraient être maintenant formellement démentis dans son jugement. Les officiers russes partent en grand nombre pour la Serbie et savent se faire tuer quand il le faut. L'affluence des officiers russes et des soldats russes dans l'armée de Tchernaïev est de plus en plus considérable. On dira « Ce sont des gens sans feu ni lieu qui n'avaient rien à faire dans leur pays, de ces hommes perdus que les aventures attirent. » Mais, outre qu'on n'a offert à ces aventuriers aucune espèce d'avantage pécuniaire, certains parmi eux ont nui à leur avancement en donnant leur démission, même provisoire. Beaucoup tombent sur les champs de bataille, mais ils continuent héroïquement leur œuvre. La jeune armée d'insurgés slaves créée par Tchernaïev commence à s'appuyer fermement sur eux. Ils rendent glorieux le nom russe en Europe, et leur sang versé nous unit à nos frères slaves. Ce sang versé ne sera pas oublié, il leur sera compté. Non, ce ne sont pas des aventuriers. Ils ouvrent une ère nouvelle. Ils sont les pionniers de l'idée russe devant l'Europe. Une figure russe qui s'est noblement dessinée, c'est celle du général Tchernaïev. Ses succès militaires ont été variables, mais il semble avoir eu le dessus partout. En partant pour secourir les Serbes, il a presque compromis sa carrière militaire, jusque-là glorieusement suivie en Russie. Au début, en Serbie, il n'a voulu commander qu'un détachement peu important. Ce n'est que depuis peu qu'il a consenti à prendre le commandement en chef. L'armée qu'il a créée s'est formée de miliciens, de recrues et de citoyens paisibles, qui n'avaient jamais tenu un fusil de leur vie. Le risque était énorme et le succès douteux. Il a remporté une très brillante victoire. Et si dernièrement il a dû reculer devant des effectifs trois fois plus forts que les siens, il ne s'est replié qu'en sauvant toute son armée et en occupant une position si forte que les vainqueurs n'ont pas osé l'attaquer. Son talent militaire est incontestable. Par son beau caractère, par ses nobles idées, il est à la hauteur des espoirs russes, du but que poursuit la Russie. Dès son départ pour la Serbie, il a acquis chez nous une popularité extraordinaire. Il l'a méritée depuis. Quoi qu'il arrive, il peut déjà être fier de son œuvre. La Russie ne l'oubliera pas et ne cessera de l'aimer.